Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Il n'y a aucun problème en soi à habiter en couple hétéro sous le même toit et à faire des enfants. Le problème, c'est que on l'a érigé depuis plusieurs décennies comme étant le seul moyen de faire famille correctement, le seul moyen de s'épanouir et en gros le seul moyen de réussir sa vie.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de la famille, de l'abolition de la famille pour être précise. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Bettina Zourli. Bonjour Bettina.
Bonjour Marie.
Est-ce que tu veux te présenter et te définir?
Oui, avec plaisir. Je m'appelle Bettina Zourli, j'ai 32 ans, je suis une femme cisgenre, je suis française, mais j'habite officiellement en Belgique depuis 4 ans, mais en ce moment, je suis plutôt en voyage, on va dire, sur le long terme depuis plusieurs mois. Je suis, je l'ai dit, hétérosexuelle, je suis dans des relations, on en parlera plus tard, mais en gros, j'ai pas trop de mots pour définir le type de relation dans laquelle je suis en ce moment. Au niveau de mon activité, je suis journaliste, je suis créatrice de contenu sur Instagram avec le compte Je ne veux pas d'enfants. Et en gros, je parle, enfin mon domaine majeur d'activité, c'est de parler de l'injonction à faire des enfants, à se reproduire, donc. Et voilà.
D'ailleurs, on a publié un épisode que tu avais enregistré avec Pierre de Soif de Sens. L'été dernier, on l'a republié, toi c'était il y a plusieurs années, dans lequel tu parles justement du fait que tu ne veux pas d'enfants et pourquoi il y a une injonction dans notre société à devoir en faire quand on est une femme. Donc je vous invite à l'écouter. Et puis on a aussi parlé avec Tsipora Sidibé du non-désir d'enfant. Et puis aujourd'hui, on va peut-être en reparler aussi, qui sait. Dans mon podcast Sologamy, vous le savez, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va donc discuter de l'abolition de la famille. Qu'est-ce que la famille nucléaire? Pourquoi a-t-elle pris autant de place dans nos sociétés occidentales? Comment est-ce qu'on peut en sortir? Pourquoi est-ce qu'on devrait en sortir? Est-ce qu'on peut se créer d'autres familles, cette fois choisies? Ou bien faut-il rejeter en bloc ce mot, la famille? Nous allons répondre à ces questions dans l'épisode, mais d'abord je voudrais te poser les questions traditionnelles de sologamy. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire?
Ouais, j'aime bien cette question, j'avoue. Bah, être célibataire, c'est, pour moi, je le corrèle vachement avec le mot liberté. Parce que du coup, à l'inverse, en fait, le couple, en tout cas dans sa définition la plus classique du couple monogame, etc., que j'ai pratiqué pendant très longtemps, c'était finalement un enfermement pas très joyeux pour moi, enfin qui a été joyeux sur pas mal d'aspects, mais qui me convient pas tant que ça. Donc ouais, célibataire pour moi, c'est une situation qui me laisse être libre le plus possible sur plein d'aspects, notamment sur les sentiments, mais aussi sur les actions que je peux avoir avec des êtres humains, on va dire.
Est-ce que tu es célibataire aujourd'hui?
Du coup, ouais, c'est hyper dur de répondre à cette question. Je dirais oui, mais en fait, je suis en relation. Enfin, je relationne avec un homme en ce moment. Enfin, du coup, j'ai toujours que relationné avec des hommes. Et du coup, ça fait 1 an et demi qu'on s'est rencontrés. On a commencé par se mettre en couple de la manière la plus classique qui soit, parce que bah, comme plein de gens, je pense, bah en gros, je rencontre quelqu'un, je développe des sentiments pour cette personne. Et du coup, pendant très longtemps, je réfléchissais pas à dans quelle modalité je voulais avoir une relation avec des hommes, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, on a réfléchi, on s'est dit qu'on voulait pas être en couple exclusif. En plus, on habite pas du tout dans la même région. Du coup, en gros, on se voit tous les 2 mois à peu près. Et on kiffe quand on se voit, on se fait des petits restos, des sorties, etc. On dort ensemble et tout. Et après, j'ai des relations avec d'autres hommes parce que j'ai envie d'explorer plein de choses maintenant que je me sens vachement plus libérée par rapport au couple et aux relations intimes, on va dire. Donc voilà, je suis ni célibataire ni pas célibataire, en gros.
Et dans le passé, tu dis que tu as été en couple?
Ouais.
Exclusif?
Oui. Ouais, ouais. En gros, moi, j'ai toujours plutôt bien performé le couple hétéro, bien classique, etc., depuis mes 15-16 ans. J'ai alterné entre des relations plutôt longues. Ma première relation de couple, elle a duré 4 ans. Entre ces relations de couple qui ont duré 4 ans, 2 ans, là, la dernière relation très longue que j'ai eue, je me suis même mariée et on était ensemble pendant 6 ans. Donc j'alternais avec ces relations-là et des périodes de célibat, on va dire, de entre, je sais pas, 3 et 6 mois, où du coup j'avais plutôt des relations d'un soir, etc., des relations sexuelles, quoi.
Et donc là, ça fait 1 an et demi que tu te considères comme célibataire.
Ouais, ouais, ouais. Bah c'est ça, en fait, c'est vraiment, j'ai un peu décidé de laisser tomber le fait de mettre des mots sur mon statut, on va dire, amoureux, parce que bah en fait c'est juste hyper flou. Il y a une relation un peu principale, enfin qui est beaucoup plus suivie que les autres, mais en fait je discute avec des hommes différents. Il y en a avec qui juste on se voit et on couche ensemble, hein, clairement. Il y en a avec qui on a des débats passionnés pendant des heures et des heures, enfin. Et donc en fait c'est un peu je suis célibataire, mais en même temps j'entretiens beaucoup plus de relations que si j'étais en couple monogame, j'ai l'impression.
Est-ce que tu relis bonheur et couple?
Ah, pas du tout. Mais je crois que pendant longtemps, oui, ça a mis vachement de temps quand même à ce que j'arrive à me sortir de cette idée. Moi, avec du recul, je me rends compte que j'ai beaucoup été dépendante du regard masculin. Et que du coup, je corrélais énormément le fait de... Enfin, je me sentais valorisée par le regard masculin. Je recherchais, même si j'avais pas l'impression de rechercher activement ça, mine de rien, je pense que j'avais une posture qui est complètement différente aujourd'hui. Donc du coup, ouais, non, vraiment, je relis plus du tout je relis absolument pas ces deux mots. Comme je l'ai dit au début, j'ai 32 ans, hein, donc ça a pris un certain temps avant de me défaire un petit peu de cette norme que moi j'avais complètement intégrée, qui était que le couple était forcément une condition sine qua non à mon bonheur, quoi.
Est-ce que la solitude est importante pour toi?
Ouais, la solitude est super importante pour moi. C'est vraiment un truc que j'ai toujours vachement nourri. Et en fait, je pense que c'est pour ça que maintenant que je découvre qu'on n'est pas obligé d'être en couple exclusif, qu'on n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un, même si on est amoureux, par exemple, ça m'a libérée de plein de choses. Parce qu'en fait, moi, au début de mes relations, donc comme je te disais, elles ont duré quand même souvent assez longtemps. Mais en fait, au début, c'était trop bien. Et après, petit à petit, on décide, de vivre ensemble. On décide de créer un carcan assez normé, un peu. Moi, je fais souvent le parallèle avec une espèce de pièce de théâtre où il y aurait des actes absolument à suivre, sinon on comprend plus rien à l'histoire, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, je me suis toujours rendu compte qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais, ou je me sentais horriblement enfermée, mais sans avoir vraiment mis les mots dessus, quoi. Donc, ouais, vraiment, ça a mis pas mal de temps avant que je me défasse de toutes ces idées-là. Et maintenant, c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus, en fait, spontané, quoi, aussi.
Et donc, la solitude, tu kiffes?
Ouais. Bah, en fait, c'est même... j'aime bien, mais c'est surtout hyper important. Moi, je suis vraiment introvertie. Donc, c'est l'idée que... Alors, j'ai plein de relations sociales, je suis très sociable, mais ça me pompe une énergie de dingue. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir un petit cocon où je suis seule. Et c'est vrai que les moments, en tout cas, où j'ai vécu en couple avec des hommes, bah, c'était un moment où... Enfin, c'était des lieux qui m'épanouissaient pas totalement, parce qu'en fait, je me sentais attaquée un peu, je pense, dans mon besoin de solitude, quoi. Donc, maintenant... pour autant, je vis en coloc, donc... C'est pas forcément lié au fait de vivre avec des gens, mais c'est plus lié à l'omniprésence de la personne, en fait. À savoir partager le même lit, ou se dire que comme on est en couple, ben, on doit manger ensemble absolument, ce qui est un truc que moi, je voulais absolument dans mes relations. Alors que là, avec mes colocs, on dort pas dans le même lit, évidemment. Et en plus, on fait nos vies, tu vois. On a des moments où on dit, on mange ensemble ce moment-là, on sort ensemble, on fait plein de choses ensemble, mais on n'est pas obligé. En tout cas, on se sent pas obligé de le faire.
Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui?
Très bien, plutôt bonne, je vais dire. J'ai eu des moments quand même où c'était vraiment pas le cas. J'essaye de refaire un petit calendrier, on va dire, pour situer un peu. C'est que du coup, ça fait la dernière relation longue monogame que j'ai eue, c'était il y a 2 ans. Donc on s'est quitté il y a 2 ans. Et on a le divorce a été prononcé il y a 5 mois à peine, parce que ça a mis vachement de temps. Même si ça s'est très bien passé, on n'était pas dans un conflit, etc. Mais moi, ça m'a énormément affectée, parce que pour le coup, j'étais pas très... C'est marrant parce que j'avais pas une très haute image du mariage. J'étais pas forcément à fond sur « Oh là là, c'est un symbole de dingue ». Et en fait, ça a quand même énormément joué dans ma vision du couple et de l'engagement et combien d'énergie tu dois mettre dans une relation de couple justement avec la personne. Et je suis vraiment... je pense que j'en suis... on n'est jamais totalement remis, je pense, des relations humaines qu'on a de toute façon. J'ai mis bien un an et demi avant d'arrêter d'avoir des crises de larmes inopinées le soir quand tu te couches ou le matin quand tu te lèves, tu vois. Et en fait, c'est surtout que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plusieurs décennies, je crois, avant d'accepter et d'embrasser pleinement mon désir à plein de niveaux. Donc le désir de non exclusivité par exemple en amour, le désir de ne pas vivre en couple par rapport au chemin tout tracé, le désir de pas être mère évidemment, mais ça fait hyper longtemps et je suis assez à l'aise là-dessus, le désir d'être nomade par exemple, enfin d'expérimenter des choses qui sont pas forcément valorisées dans la société. Donc moi, il y a plein de gens quand je raconte mon parcours qui me disent que c'est pas hyper stable, oh là là, dis donc, il y a un moment peut-être qu'il faudrait que tu trouves un appart, que tu t'achètes un truc et tout, alors que moi je suis là, le seul truc que j'ai envie d'acheter, c'est une tiny house à la limite et un terrain peut-être, mais sur lequel je peux aller et venir quand je veux. Donc ouais, ça a mis du temps et maintenant je me sens tellement épanouie et tellement alignée avec moi-même que c'est hyper agréable de ressentir ça. Donc voilà, pour le long résumé finalement.
Bon, j'ai l'impression qu'on est les mêmes personnes, puisque mon rêve, c'est également d'acheter une tiny house sur un terrain.
J'en ai visité une il y a 10 jours, c'était incroyable. C'est des trucs de ouf, c'est trop beau.
Je te souhaite de réussir.
Ouais, pareil.
Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière? Tu viens de dire que tu étais nomade, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça implique d'un point de vue financier?
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. L'argent, c'est quand même vachement tabou pour plein de gens, donc c'est bien qu'on en parle. Mais ouais, moi, c'est vrai que forcément, le moment où je me suis séparée, donc où c'est moi qui ai déménagé du logement où on habitait ensemble avec mon dernier partenaire.
C'est lui qui t'a quitté, du coup?
Alors, en fait, il y a eu une ultime engueulade qui est venue des deux côtés, mais moi, j'étais pour mettre de l'énergie à essayer de réparer et de faire un travail, et lui, pas du tout. Donc au final, c'est lui qui a eu la décision, qui a pris la décision finale, quoi. Et c'était son appartement à lui. Donc du coup, moi, je suis partie et j'ai dû me retrouver un appart. J'étais dans des Airbnb, je logeais chez des potes, etc. Donc ouais, ça a clairement affecté ma situation financière, on va pas se mentir. Et je pense sincèrement, on pourra jamais le quantifier, mais je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui malheureusement n'arrivent pas à sortir d'une relation non désirée, juste parce que manque de moyens financiers. Et bah je pense que toi tu le sais aussi hein, le prix des loyers quand t'es célibataire et que t'as pas envie de forcément d'être en colocation ou de vivre avec des gens, bah bonjour quoi. mais maintenant plus du tout parce qu'en fait donc comme je disais je vis en fait j'ai un appartement en colocation. En ce moment je sous-loue ma chambre à une femme qui donc qui vit chez moi pour être un peu nomade, mais donc du coup j'ai réussi à faire en sorte d'avoir un loyer qui soit pas trop important parce qu'on est trois dans la colocation. Donc ça va, on s'en sort. Et en plus de ça, là, j'ai réussi à avoir cette sous-location qui fait que ça m'a dégagé bah, le montant de mon loyer, qui est à peu près de 650 euros, un truc comme ça, pour voyager. Et je trouve des petites combines, je vais garder des animaux, de gens qui partent en vacances, j'ai des potes super sympas qui me sous-louent leurs appartes pas trop cher, même à Paris. Enfin, donc en gros, l'un dans l'autre, ça se fait. Je suis rentrée un peu chez ma mère et du coup, bah voilà, juste pour voir ma famille. Et du coup, c'est aussi des moments où je paye pas de loyer parce que j'ai de la chance d'avoir une famille aussi et même des potes qui peuvent m'héberger. Donc voilà, franchement, là, le célibat, je peux pas te dire que ça pèse sur ma situation financière maintenant, mais j'avoue que ça m'a traversé l'esprit quand je me suis séparée alors que j'habitais avec mon compagnon. Parce que j'ai eu un peu peur de me dire « est-ce que je vais me foutre dans la merde ?» Et en fait, non. Ça a été. Mais parce que voilà, moi, je suis un peu la pro de la magouille. J'ai toujours trouvé un petit boulot qui fait que je vais gagner de l'argent. Enfin, voilà. Et bon, j'ai aussi des privilèges qui font que je peux m'en sortir bien, on est d'accord.
Oui, et puis tu me disais que tu avais un boulot alimentaire tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. En gros, mon activité professionnelle, elle est vraiment divisée en deux. Ce boulot alimentaire qui me permet d'avoir plus ou moins le même type de revenus par mois. Et de si je me sens pas en fait de d'être active sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'ai pas d'idées et je me sens pas alignée avec ce qui se passe etc. Bah en fait je me sens pas obligée de le faire. J'ai un peu arrêté les partenariats mais j'en ai encore quelques-uns qui arrivent peut-être tous les 2-3 mois. Et après je fais des piges aussi pour des médias en tant qu'indépendante donc bah voilà ça tombe quand ça tombe et après bah il y a les livres aussi mais donc les droits d'autrice bon bah voilà ça tombe quand ça tombe aussi j'ai des projets de BD etc enfin de co-post co-publication avec des médias sur les réseaux sociaux et je suis payée aussi pour ça donc c'est cool mais j'ai quand même besoin de ce boulot alimentaire aujourd'hui.
Oui donc tu es créatrice de contenu la moitié du temps. Et si vous n'avez pas noté, c'est « Je ne veux pas d'enfant, ton compte ». Donc, allez vous abonner. Tu as peut-être 60 000 abonnés, presque.
Ouais, bientôt, je crois qu'on va être...
59 000.
Ouais, c'est ça, je crois.
D'ici la diffusion, voilà, il y aura 60 000 abonnés. Donc, allez vous abonner. Tu parles de tous les sujets féministes, mais notamment du fait de ne pas vouloir d'enfant.
Ouais, le point de départ, c'était ça. Et maintenant, en fait, voilà, ce point de départ de l'injonction à faire des enfants, il m'a ouvert tellement de pistes sur un féminisme beaucoup plus complet que maintenant, ouais, je parle un peu de tout ce qui me traverse l'esprit sur l'écologie, le féminisme au sens très large, donc les féminismes, la politique, etc.
C'est très cool. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton sorte de célibat?
C'est une bonne question. En fait, je pense que oui et non. C'est-à-dire que j'ai quand même une grosse partie de moi qui demande jamais son avis aux gens parce que je m'en contrefiche. Et en même temps, bah, il y a quand même un peu ce petit poids qui persiste un peu sur les épaules de, ah là là, mais ça va peut-être être un peu bizarre. Qu'est-ce que les gens vont en penser? Alors même que j'ai un environnement qui est hyper sain là-dessus, hein, que ce soit ma famille ou mes amis, personne ne m'a jamais, fait comprendre en tout cas qu'il y avait quelque chose d'anormal chez moi ou que enfin remettre en question mes choix de vie quoi. Donc non, franchement ça va, c'est plutôt apaisé là-dessus aussi quand même.
Et ta sexualité ça se passe bien? Ça se passe comment?
Eh ben ça se passe de mieux en mieux. Je vais franchement ça a pas été évident parce que c'est marrant de je repensais à ça il y a pas longtemps. C'est que bah du coup moi j'ai eu ma première relation sexuelle était quand même hyper tôt, j'avais 13-14 ans. Et du coup, bah, ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis active sexuellement. Et ça fait quand même pas si longtemps que ça que je me sens épanouie et assez libre justement dans mon corps ou avec les personnes avec qui je relationne pour exprimer mes désirs, etc. Ça a mis énormément de temps et là-dessus, merci le féminisme, parce que bah, je me sens légitime en fait de bah, déjà de refuser en fait des choses que je refusais peut-être beaucoup moins avant. Ou juste d'explorer des trucs en fait au-delà de ah là là est-ce que c'est vraiment ce qu'une fille respectable ferait, enfin ce genre de pensée bizarre qu'on se met soi-même alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc ouais maintenant ça va, j'ai hâte de continuer à explorer en gros ce pan de ma vie pendant les années qui arrivent quoi.
Trop bien. Passons au thème de l'épisode, abolir la famille. Pourquoi tu as choisi ce thème?
Ouais, j'ai vraiment, j'étais écrit, je pense, directement quand j'ai vu la thématique que tu abordais, en tout cas ce mot, enfin cette expression.
Parce qu'en fait, j'ai fait un appel à témoins sur les réseaux sociaux sur différents thèmes que j'ai proposés en rapport avec le célibat, et toi, c'est ce thème que t'as choisi.
Ouais. Bah alors pour tout te dire, parce que donc là j'ai mon livre qui sort là en qui est sorti en 2024 du coup sur le fait de choisir d'être mère ou non. Et à la base, quand j'avais contacté mon agent pour un projet de livre, donc il y a un an et demi, je voulais lui proposer un livre qui, en gros, mon idée de titre, c'était abolir la famille, un truc comme ça, tu vois.
Mais c'est en pas tout cas, encore publié.
Abolir. Mais il m'a dit, bah c'est un peu violent quand même. J'étais là, mais trop pas. Et en fait, je pense que c'est une bonne punchline, cette expression, qui en fait revêt plein de nuances qu'on va explorer, je pense, du coup, là maintenant. Et ouais, ça me tenait vraiment à cœur. Je trouve que c'est une expression très forte et qui permet en fait d'ouvrir la boîte de Pandore de la famille nucléaire aujourd'hui, c'est de la merde. Et il est vraiment temps que l'on remette en question cette institution pour faire mieux, en fait. Donc voilà, j'avais envie qu'on parle de ça ensemble.
Trop bien. Mais juste avant, est-ce que tu peux présenter ton livre quand même?
Ouais, alors
du coup... Ou tes livres, comme tu veux.
Ouais, bah donc du coup, le dernier livre, là, s'appelle Le temps du choix, donc rien à voir en termes de titre. Il est sorti en février aux éditions Payot, et donc c'est un livre où je me questionne sur est-ce qu'en 2024, on est vraiment libre de choisir d'être mère ou non? Est-ce qu'il y a encore des injonctions qui persistent? Et si oui, comment y remédier? Avec évidemment une liste non exhaustive, mais en tout cas, j'explore des moyens de sortir en fait de cette injonction à faire famille de la bonne manière. Et du coup, il y a un petit chapitre dans la troisième partie du livre qui est dédié aux solutions, qui parle justement de est-ce qu'il serait pas temps d'abolir en tout cas ce système familial, donc cette institution, hein, pas de dire vous n'avez plus le droit de faire famille, d'être en couple famille nucléaire ou d'être en couple hétéro notamment, c'est pas ça, mais en tout cas de remettre en question cette institution qui est une source de violence inouïe, quoi.
Trop bien. Je l'ai pas encore lu, mais je vais le faire et je vous invite à l'acheter. Donc, comment tu définis d'abord la famille nucléaire, et pourquoi tu dis que c'est de la merde?
Ouais, alors moi, quand je dis famille, je relie tout de suite à famille nucléaire, donc qui est une invention humaine, qui est tout à fait récente dans l'histoire de l'humanité. En gros, ça a même pas un siècle. Donc, qui est le fait d'avoir un homme et une femme, a priori, parce que c'est encore le modèle hétéro qui prime, qui vivent sous le même toit et qui sont parents de un ou plusieurs enfants. Et souvent, ce qui est présenté comme le modèle idéal, c'est deux enfants, une fille et un garçon, évidemment. Et donc, en gros, moi, il y a aucun problème en soi à habiter en couple hétéro sous le même toit et à faire des enfants. Le problème, c'est que on l'a érigé depuis plusieurs décennies comme étant le seul moyen de faire famille correctement, le seul moyen de s'épanouir et en gros le seul moyen de réussir sa vie. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est de la merde, c'est que au-delà de ça, c'est que ça nous enferme dans y aurait qu'une seule bonne manière justement de faire famille. Alors je pense qu'on va y revenir, tu as parlé un petit peu tout à l'heure du concept de famille choisie. On va y revenir parce que j'adore ce terme aussi, mais que au-delà de ça, c'est aussi une institution qui peine à être remise en question, alors même que c'est un lieu de violence très fort, en particulier pour les enfants et pour les femmes. Et donc pareil, ça, j'y reviens un peu dans mon livre. Malgré le fait que je veux pas d'enfants, je me sens très concernée par cette question, parce qu'en fait, on est tous interconnectés, et moi, j'ai pas envie que, si j'habite dans un appart, de me dire, est-ce que le voisin frappe sa femme, tu vois, en gros, hein, clairement.
Ou ses enfants,
tout à fait, et que c'est une réalité. Enfin, il y a quand même pas mal de sujets, grâce aux féministes notamment, qui sont sortis un petit peu du placard ces dernières décennies sur les violences sexuelles que subissent les enfants, et sur le fait que c'est la population la plus vulnérable et qu'on s'en fiche complètement. Et qu'en fait, cette violence, elle a lieu parce que le système famille n'est pas remis en question. Voilà. Donc je pense qu'il y a... C'est pour ça que je pense qu'il est grand temps, soit qu'on se défasse de ce mot famille, parce qu'en fait, ça nous enferme dans quelque chose, mais comme le mot couple, comme plein de choses, en fait, et juste qu'on vive nos vies de la manière dont on le souhaite. Ou en tout cas, que si on continue d'employer ces termes-là, qu'on le décorelle pas d'une lecture politique, en fait, je pense.
Ouais, bah exactement. Je sais plus comment j'ai eu l'idée de cet épisode. C'est pas moi qui ai eu l'idée du terme abolir la famille, comme tu dis. C'est un truc qui doit apparaître dans certains essais militants sur les réseaux. Et donc j'ai voulu parler de ça aussi parce que moi-même dans mon enfance j'ai subi des violences de la part de mes parents et j'en subis encore aujourd'hui. Et tout le monde a priori, enfin en tout cas la majorité de la population a été enfant et a vécu dans ce modèle de famille nucléaire. Et donc c'est extrêmement violent puisque comme tu l'as dit, c'est là où se perpétue la majorité des violences puisqu'on estime que la majorité des violences sexuelles sont commises sur des enfants de moins de 18 ans et qu'on a aussi tout le fait que dans une famille on doit obéir aux parents, donc ça laisse la porte ouverte à plein de violences dont on n'a même pas conscience aujourd'hui en étant adulte, c'est-à-dire on pense que c'est normal d'obéir aux parents, c'est normal de se prendre des claques, des fessées de temps en temps, et puis aussi il y a toute une période où on a juste pas le souvenir conscient de ce qui s'est passé, des mots qu'on a reçus, et encore aujourd'hui c'est normal que nos parents nous donnent des ordres, même une fois arrivé à l'âge adulte, nous insultent, nous crient dessus. Moi je continue à parler à mes parents. Alors que si mes parents étaient des mecs cis avec qui j'ai eu une relation, je les aurais jetés au bout d'un moment en mode « je suis féministe, je ne peux pas sortir avec un homme violent ». Mais aujourd'hui, je continue de répondre au message de ma mère qui est une personne extrêmement violente et qui est vraiment pareil qu'un mec cis, c'est-à-dire qu'elle est incapable de reconnaître ses torts, de présenter ses excuses, de changer de comportement, elle n'a jamais fait de psychothérapie et elle continue d'être violente. Et moi, je pense que je lui dois quelque chose parce qu'elle fait reposer ça sur mes épaules en mode « j'ai tout fait pour toi, on a tout fait pour toi » et si je lui renvoie à la figure qu'elle a fait des erreurs et qu'elle était violente, elle me dit « elle fait la victime, renversement de culpabilité comme d'habitude, mais j'ai tout gâché, je suis une mauvaise mère » parce qu'il faut le dire aussi, elle avait toute la charge mentale sur ses épaules, elle a élevé 3 enfants dans une société sexiste et capitaliste et je voulais en venir à là. Là, le modèle dont on parle, c'est un modèle très occidental, très blanc. Est-ce que tu peux, peut-être que t'as pas travaillé sur ça, mais est-ce que tu peux parler de son rapport avec le système capitaliste ? Parce que pour moi, c'est pas seulement qu'on violente des enfants, c'est aussi qu'on on apprend aux enfants, on les éduque, on les instruit, enfin c'est des mots extrêmement violents, à obéir, à devenir des bons soldats, des bons travailleurs. Et moi, je ferai une critique plus générale aussi de l'école républicaine française. On encense les profs, etc. Mais il y a quand même un gros problème, puisqu'en fait, on apprend aux enfants à devenir des travailleurs, à être soumis. Et ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de révolution.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Exactement. Ouais, t'as ouvert tellement dessus. Mais grave, chaque phrase que tu disais, je... oui, oui, oui. Mais c'est ça. Alors, pour revenir aussi sur un autre élément, donc tu disais en parlant de ta famille, l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est effectivement que notre système famille fait en sorte que l'on doit pardonner. Alors, j'étais tombée sur une citation sur Instagram, ça m'avait rendu dingue. C'est un philosophe, je ne sais plus son nom, qui disait on devient adulte le moment où on a pardonné à ses parents. J'étais là, mais quoi? Et effectivement, c'est vrai dans le sens où dans l'imaginaire collectif, on doit tout pardonner à sa famille quand on est relié par le nom de famille, le sang, tout ce que tu veux. Enfin bref, tout ce qu'on entend qu'on peut mettre sous le nom de famille nucléaire, en tout cas dans une visée très classique du terme. Et du coup, c'est vachement difficile de remettre ça en question à tel point que, tu l'as dit, même des personnes qui vivent des choses violentes ou qui en ont vécu ont quand même du mal, ou parfois même culpabilisent, de couper les ponts, alors même que c'est vital. Et comme tu l'as dit, avec d'autres gens avec qui on n'est pas relié par ce concept de famille, et ben on le ferait sans problème. Et je pense qu'il faut pas. Enfin moi, c'est quand même quelque chose que je répète souvent sur mes réseaux. C'est on ne doit rien à sa famille, d'autant plus quand elle est maltraitante, et que on a le droit de couper les ponts. Enfin moi là, c'est la première fois cette année d'ailleurs. J'ai pas fait Noël en famille parce que j'étais en Italie et que j'étais pépouse. On a fait Noël sur Zoom avec une de mes colocs, donc par Zoom interposé, en regardant Love Actually. C'était incroyable.
La chance.
Bah ouais, et en fait, je sais qu'il y a des gens de ma famille qui ont pas compris, mais c'est juste que moi, Noël, j'ai pourtant pas une famille maltraitante, hein, franchement, pas du tout. Mais Noël, c'est un moment qui m'angoisse, qui me met mal à l'aise. Je subis je dois subir des moments de discussion avec des propos racistes, sexistes, et non, en fait, on en subit déjà bien assez toute l'année, d'autant plus quand on est féministe active sur soit dans des associations, dans la rue, sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pas envie de m'infliger ça avec des gens avec qui je pourrais pas en plus vraiment discuter parce que bah la famille, faut pas trop faire de vagues, etc. Donc il y a ça premièrement parce que je voulais le rappeler. Et du coup j'ai un peu perdu le fil de la seconde chose que je voulais dire.
Pour rebondir juste sur Noël, ça me fait penser que moi justement je me posais la question de pas faire Noël avec ma famille. Et il y a deux problèmes que je vois, c'est des excuses que je me trouve, hein, mais déjà il y a mon lien avec mon frère et ma sœur qui est très fort et je sais qu'ils tiennent à ce Noël avec les parents et que la maison des parents c'est un endroit où on peut se retrouver entre nous. On pourrait aussi se retrouver dans d'autres lieux, mais en tout cas je sais que le jour où je dis que je viens pas à Noël pour passer Noël avec la famille, bah je... Possiblement, je ne vais pas passer Noël avec mon frère et ma sœur. Je vais m'éloigner de ces personnes. Et puis, deuxièmement, il y a l'argent, puisque bon, dans la plupart des familles, c'est pas le cas. Mais mes parents sont riches et me tiennent un peu comme ça en me disant, bah de toute façon, ils le disent pas, mais voilà, ils ont beaucoup d'argent. Moi, je suis dans un travail précaire. Du coup, je me dis, le jour où je coupe les ponts, bah en fait, ça veut dire que bah si j'ai un problème, je pourrais plus compter sur ces gens-là financièrement. Je pourrais plus revenir vivre chez ces gens-là et j'aurai pas d'héritage, etc. Et donc je me dis, en fait, le jour où je coupe les ponts, je perds possiblement mon frère et ma sœur, ou je m'éloigne, et ensuite je deviens encore plus précarisée. Et c'est pour ça que je reviens au volet capitaliste de ma question. En quoi la famille est une institution d'élevage des enfants, en fait?
Ouais, très bien, t'as bien raccroché le wagon, bien joué. ouais, c'est que... Mais en fait, ça c'est, on peut revenir à ce que je disais au début sur le fait que la famille nucléaire, elle est pas anhistorique et que ça fait pas si longtemps qu'on le pratique de cette manière-là. C'est qu'en fait, ça s'est mis en place, notamment avec la taille de nos foyers, le fait de vivre côte à côte de gens qu'on connaît pas et avec qui on tisse pas de lien, c'est lié à la révolution industrielle. C'est effectivement un exode rural massif d'hommes qui partent des campagnes pour aller travailler dans les usines en ville. Au début, ils habitaient en gros ensemble dans des logements partagés. Puis après, il y a la mise en couple qui fait que du coup, les logements se sont compartimentés pour accueillir des couples. Ils étaient beaucoup plus grands à l'époque, les logements, donc après pour accueillir les enfants. Et que du coup, tout ça découle effectivement de... il faut avoir un emploi salarié parce que ça paye mieux que nos emplois dans les campagnes en ville. Et que du coup, on se met en couple, on fait des enfants, etc. Et ensuite, je pense que... Là, il faudrait que je retrouve des sources vraiment là-dessus. Mais en tout cas, j'avais lu des récits de la famille au 19e siècle et après au 20e siècle. Et que le fait de maintenir en tout cas ce système... de famille nucléaire et notamment de mettre la pression, la charge mentale sur les femmes, tu sais, d'aller sortir leur mec du bar quand ils vont retrouver leur copain après le boulot au lieu de rentrer à la maison, etc. Il y a eu toute une campagne en France sanitaire là-dessus pour combattre l'alcoolisme à un moment donné en disant les femmes doivent être les garantes du foyer, etc. Mais en gros, c'était pas pour la santé des hommes, on s'en moquait complètement. C'était pour dire arrêtez de dépenser toute la thune là-dedans et épargner, parce que tu vois, par exemple, la France est un pays d'épargne énorme, et ça, je pense que ça découle de ça. Et tenez vos maris, parce qu'après, il faut qu'ils soient productifs le lendemain, quoi. Donc ouais, il y a vraiment ce truc de cette cellule familiale qui a mis vachement de temps avant d'être vue sous un œil politique. Et là encore, je pense que c'est grâce notamment au travail des féministes. Un moyen de docilité. Et après, en fait, je pense que le système capitaliste a nous a complètement échappé là depuis un certain temps. Enfin, je pense que depuis le début, il nous échappe. Mais en tout cas, là, il est devenu, la machine est devenue tellement rapide qu'en fait, elle nous broie littéralement. Et que du coup, bah, on n'a plus le temps de rien. En fait, on est, a priori, quand on se met en couple, quand on habite sous le même toit, qu'on a des enfants, on a un rythme de vie qui nous permet plus de penser à rien. Mis à part de mettre toute son énergie à essayer de maintenir ce système, coûte que coûte. Et t'as parlé de l'école. C'est vrai que moi, quand j'y repense, moi, j'ai de la chance. Je fais partie des gens qui ont toujours eu un cursus scolaire très bon. J'ai jamais redoublé de classe. J'ai fait une classe prépa littéraire. Après, je suis allée à la fac et en école, style commerce, mais genre vraiment bas de gamme, pas cher et tout. Et j'ai toujours aimé apprendre. Donc, ça a été un plaisir, en fait. Mais quelle torture, sinon, pour plein de gens, je pense, quand on y pense, de rester assis 8 heures sur une chaise à emmagasiner de l'information sans aucune interaction, parce qu'en plus de ça, on a un rapport très hiérarchique en France à l'école. Et pour le coup, je suis un peu contre les écoles de commerce, mais la seule année où j'y suis allée dans un truc qui ressemblait, la moitié de notre classe venait des États-Unis. Donc c'était assez cool, parce qu'en fait, on se confrontait à des étudiants qui ont un système qui n'a rien à voir. Je ne suis pas pour le système états-unien, notamment capitaliste, mais en tout cas, ils étaient carrément dans l'échange avec les profs, c'est-à-dire que tous les cours, pour eux, sont du débat permanent, et d'aller toujours plus loin, d'aller toujours dans les retranchements des gens, plutôt que d'avoir un savoir qui est descendant. Et j'avoue que quand j'ai découvert ça, j'avais du coup 20 ans, je crois, je me dis, bah, quoi ? Mais génial, en fait, enfin hyper intéressant. Et là, plus récemment, je m'intéresse à une chercheuse notamment qui s'appelle Marion Quirk, qui habite en Suède, si je me trompe pas, et qui parle beaucoup de l'éducation scandinave versus l'éducation française, parce qu'elle est française, et qui, tu vois, sur le rapport à l'obéissance, etc., était là, waouh ! Mais en fait, on a créé un système qui est juste pour nous apprendre la docilité. Là, en plus, on est revenu sur les débats sur l'uniforme qui va être a priori généralisé en France si ça se passe bien. Donc sur vraiment ce truc de bons petits soldats, on est tous pareils parce que la France et l'universalisme républicain, c'est magnifique. Non, on nous apprend surtout à être des moutons, à pas réfléchir et à être le plus docile possible. Enfin, c'est trop triste, quoi. Et encore une fois, moi, pourtant, j'en ai bénéficié de ce système. Hein, j'en m'en tire très bien. Tant mieux pour moi, mais ça m'empêche pas, justement, vu que je m'en tire bien, je pense que c'est un devoir de le remettre en question et de le critiquer, en fait, quoi.
Ouais, et puis surtout, ça ne marche pas, le modèle de la famille nucléaire. C'est-à-dire que on le soutient de façon artificielle, et notamment bah, la charge des femmes.
Ouais.
Mais ça ne marche pas, ça explose de tous les côtés. Et Louisa Amara du podcast Single Jungle en parle très bien. Il y a de plus en plus de personnes célibataires en France, et la majorité des gens vivent dans des logements seuls. Ouais. Sauf que le parc des logements n'est pas du tout adapté à des personnes célibataires. Et moi, je vis dans un logement social à Cherbourg, et en fait, il fait 55 mètres carrés. Donc, on pourrait loger minimum 4 personnes facilement. Et il n'y a pas de logement petit dans le parc social. Enfin, il y en a très peu. Sauf que moi, dans mon immeuble, la plupart des gens vivent seuls.
Wow.
Et c'est notamment beaucoup de femmes seules. Et notamment, les personnes âgées vivent souvent seules. Et en fait, rien n'est adapté. Et on a des gens qui dorment dans la rue, évidemment, puisqu'il n'y a pas assez de logements. Enfin, c'est
ça n'a vraiment aucun sens. Ouais, c'est vrai que... Ouais, ça n'a aucun sens. Et comme tu dis, c'est vrai qu'en plus, on le maintient. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que comme on n'a plus le temps, parce que notamment les femmes, en fait, ont encore moins le temps, parce que emploi salarié plus double journée de travail quand il y a des enfants, etc., tu peux jamais sortir la tête du guidon, parce qu'en fait, si tu lèves la tête 2 secondes pour reprendre ton souffle, t'es là, bah en fait, il y a un truc qui va merder. Donc, soit si c'est pour, je sais pas, reprendre ton souffle, par exemple, en disant « mon boulot ne me convient plus, je veux en changer », bah non, tu peux pas, parce que bah t'es tenu par la jambe pour payer ton loyer, pour payer la crèche des enfants, pour payer je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment un système... Enfin, c'est très bien fait, hein. C'est fait pour qu'on puisse pas en sortir, en fait, justement. Et là, d'ailleurs, ça me permet aussi de me faire un petit pas de côté, mais juste, c'est hyper important pour moi de lire des utopies. Et notamment des utopies sur le post-capitalisme, sur l'après, en fait. Parce qu'on a toujours cette impression qu'en fait, il faut, en général, 3 à 4 générations pour qu'on croie que notre système, il est immuable. Parce que justement, comme on a connu que ça, que nos parents et nos grands-parents ont connu que ça, on pense qu'on peut pas en changer. Et je trouve que c'est toujours important de le rappeler que, en fait, si, rien n'est immuable, le capitalisme, c'est une invention humaine, hein, on n'a pas toujours vécu sous ce joug-là. La famille nucléaire, pareil, on l'a dit, c'est pas du tout quelque chose qui a toujours existé. Et donc, on a le droit d'inventer autre chose. Et il y aura certainement, dans 50, 100 ou 150 ans, un tout autre système, c'est évident. C'est juste qu'on ne sait pas encore et qu'en plus, on a du mal à l'imaginer parce qu'on n'a pas le temps. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Post-croissance, justement, qui va parler de ça. Enfin, post-capitalisme, pardon. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire travailler nos imaginaires, en fait. Et ça, c'est une grosse force, en fait, il me semble.
Bah, je voulais en venir à là. Comment on sort de la famille nucléaire? Pourquoi il faut l'abolir, on vient de le dire. Et comment faire très concrètement? Donc nous, c'est passé par refuser de faire des enfants et refuser le couple exclusif et monogame. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on est des personnes privilégiées?
Bah, en fait, c'est ça. Je pense que mine de rien, moi, je suis pas du tout dans une vision... Enfin, j'essaye, en tout cas, je pense que j'ai pu l'être, mais dans une critique classiste de bah, si on veut ou peut... non, il y a plein de gens
individualiste.
Qui ne peuvent pas. Voilà. Plein de gens qui ne peuvent pas, en fait, juste parce que, bah, on vient de le dire, en fait, t'as pas le temps. Mais c'est comme l'écologie, c'est comme plein de trucs. Les gens qui disent, bah, t'as qu'à tout faire maison. Bah, c'est bien, mais plein de gens ont pas le temps et ils achètent des plats préparés. Bref, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, quoi. Et donc, ouais, comment on peut sortir de ça? Mais en fait, je pense qu'effectivement, il y a des moyens très concrets. Nous, on a pu se permettre de mener cette réflexion et d'avoir les ressorts extérieurs pour se sentir légitime et du coup pour embrasser un nouveau mode de vie au-delà du couple ou de la famille nucléaire, etc. Mais je pense que, enfin, pour moi, un des nœuds majeurs pour réussir à sortir de ça, c'est de remettre de la solidarité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement tout compartimenté et on est tellement pressurisé sur tout qu'en fait, on n'a plus le temps de s'intéresser à nos voisins. Et si on prend, par exemple, si on arrive à recréer d'autres modèles, ben en fait, on se rend compte que si on remet de la solidarité, on abaisse notre dépendance financière au système de la famille nucléaire, parce qu'on peut créer de la dépendance financière à d'autres gens. On est tous dépendants des autres, hein. Mais moi, je prends l'exemple de ma coloc, c'est que, bah, on est dépendantes toutes les trois financièrement du fait qu'on vive dans cette colocation. Mais elle est complètement joyeuse, cette dépendance. Elle est pas du tout subie comme ça peut l'être dans le cadre d'un couple violent, ce genre de choses, quoi. Il peut y avoir, du coup, donc, le fait de vivre avec d'autres personnes que dans un couple, dans une famille, en tout cas classique. Moi je pense que c'est vraiment essayer de remettre du collectif, du coup, de, je sais pas, moi c'est peut-être très utopiste parce que j'y suis jamais allée, je le connais pas, mais les habitats partagés, moi c'est un truc qui me parle beaucoup, c'est de se dire il faut que chacun ait un lieu individuel pour dormir, pour se recentrer, pour être seul si besoin, mais il faut aussi que tout s'organise en collectivité, quoi, parce que sinon on va jamais s'en sortir, c'est sûr.
Ouais, ça me fait penser à l'épisode que j'avais enregistré avec Charlène Thomas, qui est urbaniste, et on parlait de l'habitat solo. Et c'était il y a quelques années que je l'avais interviewée, elle habitait dans un appart toute seule en région parisienne. Et maintenant, je sais qu'elle a réussi son rêve, elle a monté un projet d'habitat collectif partagé. Je crois qu'elle y est déjà, en fait. Et je ne suis pas allée, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est également mon objectif, peut-être le tien aussi, puisqu'on a parlé de tiny house. Le but, c'est de vivre dans une collectivité et... Peut-être que des personnes veulent vivre dans le même espace, mais moi, j'aimerais bien avoir mon espace personnel. Et c'est une utopie qui est mise en œuvre à plein d'endroits en France. Mm-mm. Mais bon, voilà, encore faut-il avoir les moyens de temps et d'argent et de connaissances pour y aller, quoi. Donc, c'est souvent des personnes blanches.
Ouais, c'est vrai. Mais oui, moi, pour ce truc de tiny house, c'est vraiment ça. J'ai pas envie forcément d'être toute seule dans ma tiny house. J'ai envie de potentiellement avoir un terrain. Si moi je peux l'acheter et le filer à des gens en disant bah viens mettre ta maison ou viens mettre ta yaourt, viens mettre ce que tu veux, je sais pas, dessus, à moindre frais, tant mieux, j'aimerais bien le faire. Et en tout cas se dire bah on a nos petits espaces parce qu'on a besoin d'un minimum, je pense, pour soi. Et en même temps, bah on est relié aux autres parce qu'on a un terrain qu'on partage, avec, je sais pas, un potager qu'on partage ou une salle commune qu'on partage où on ferait plein de choses ensemble, cuisiner ensemble, etc., quoi. Je pense que je trouverais ça vachement vachement chouette, mais ça a déjà été expérimenté, hein, des utopies notamment, bah alors c'est dans le cadre du travail, mais les phalanstères, les familistères, je sais pas si ça te dit quelque chose, tu vois, mais de trucs de vie en commun. Alors c'était dans le cadre ouvrier et c'était un peu pour contrôler les salariés, mais au final il y a quand même eu pas mal de, plutôt dans la gauche de l'échiquier politique et des patrons plus humains et humanistes qui ont essayé et ont même parfois réussi à mettre en place des modèles vachement plus joyeux et basés sur la collaboration et le collectif, quoi.
Ouais. Moi, le seul problème, c'est que comme je suis traumatisée des violences dans ma famille, j'ai très peur du conflit et des violences dans d'autres espaces. Et donc, je me dis toujours, en fait, si j'habite avec d'autres personnes, forcément, je vais re-subir des violences ou je vais moi-même être violente avec des personnes, tout simplement parce que dans ma famille, comme j'ai vu que c'était le seul mode de communication, je n'arrive pas à imaginer si, par exemple, tu vis sur un terrain qui, si ça appartient à tout le monde et qu'il y a une forme de coopérative, il peut y avoir des moyens d'en sortir. Mais si, par exemple, c'est ton terrain ou le terrain de quelqu'un d'autre et que tu arrives sur son terrain, si du jour au lendemain, la personne veut te mettre dehors, enfin voilà, ça pose vraiment des questions sur la gestion des violences et du conflit.
C'est clair.
Et moi, je suis traumatisée. Du coup, je suis juste en mode, en fait, je préfère être seule dans mon appart. Je me sens seule, mais au moins, je subis pas de violence. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Oui, c'est clair. Je pense que l'avantage qu'il y a à sortir des modèles normés, c'est qu'en fait, t'es obligée de mettre beaucoup plus de communication. Que ce soit dans le couple ou dans le fait de s'organiser autrement que habiter sous le même toit, parce que du coup on est amoureux, du coup on habite ensemble, c'est logique. Ce qui est un chemin où en fait la plupart des gens se posent jamais de questions. C'est juste du coup on s'est mis en couple et puis après on a habité ensemble et puis on a fait des enfants. Mais pourquoi? Enfin, c'est pas obligé. Et c'est vrai que du coup quand on sort et que tu veux imaginer autre chose et mettre en place autre chose, et souvent il y a plus de communication, mais comme tu l'as dit, ouais, ça veut pas dire que ça va être que c'est parfait, que ça va pas être violent, qu'il va pas y avoir des systèmes d'oppression, des hiérarchies et tout qui se remettent en place. Donc là, ça demande effectivement d'avoir une gestion féministe, je dirais, de ce genre de choses. C'est, de débunker, enfin, de désamorcer directement dès qu'il y a un conflit et d'être dans le soin aux autres. Mais il y a la théorie, il y a la pratique, hein. Je pense qu'on peut tous et toutes être capables de violence envers d'autres personnes par rapport à son propre vécu et juste par rapport au fait que parfois t'es poussé dans tes retranchements et qu'en plus on n'a pas l'habitude de vivre selon d'autres modalités, quoi. Donc, ouais.
Sans violence.
Ça demande de l'expérimentation et moi je trouve ça hyper positif que ce soit déjà expérimenté. Parce qu'en fait c'est juste que c'est pas visibilisé, mais pour revenir aux habitats partagés, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, c'est quand j'étais encore en Belgique et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines d'habitats partagés près de chez moi. Et ça je ne savais pas. Mais c'est dingue en fait. C'est que oui, il y a plein de gens qui décident de sortir de juste on vit dans notre appartement en couple et en fait non, on a envie de souvent ça s'accompagne de projets hyper chouettes de il y a un habitat partagé donc qui est pas loin de mon appart à Bruxelles où en gros, ils ont cassé la barrière du jardin qui fait que le jardin est ouvert sur le quartier. Et ils ont fait un énorme potager, le dimanche ils font des repas entre voisins etc. Et je me dis c'est génial. Et juste ils ont décidé de casser le mur physique qui fait que leur habitation est privée. Et non, c'est juste un lieu vraiment partagé, quoi. C'est trop cool.
Grave. Est-ce que tu veux nous parler de réarmement démographique, puisque c'est un peu dans l'actualité. C'était Macron pour les vœux de la nouvelle année qui avait dit qu'il fallait qu'on fasse plus d'enfants, puisque la famille nucléaire, comme je vous l'ai dit, est un modèle artificiel qui ne tient pas la route, comme on vous l'a dit. Et donc, les femmes ne font plus assez d'enfants pour alimenter le modèle capitaliste.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu réponds à ça, même si on sait très bien ce que t'en penses?
Ouais, non, mais c'est bien qu'on y revienne, parce qu'en plus, je voulais rebondir sur une phrase que j'avais trop aimée que t'as dite, qui est que la famille, est un modèle artificiel qu'on met énormément d'énergie pour qu'il puisse être maintenu. Et je pense que... Alors, Emmanuel Macron, malheureusement, l'a traité de manière hyper partielle et partiale en disant que si il y a une baisse de la fécondité, c'était forcément lié à l'infertilité seulement. Alors oui, il y a effectivement de l'infertilité, on peut pas le nier. Hein. Depuis plus de 40 ans, il y a des études sur les perturbateurs endocriniens et les pesticides notamment qui font baisser la fertilité des hommes et des femmes. Sauf qu'en plus, lui, il le traite même pas d'un point de vue écologique, donc il n'y a rien qui va. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a plusieurs autres aspects. C'est que, c'est donc le titre de mon livre aussi, Le temps du choix, c'est que peut-être on est arrivé dans un moment où en fait on a développé tellement de choses pour soutenir le libre arbitre des femmes notamment, qu'on peut-être on est arrivé dans le temps du choix du nombre idéal d'enfants. Et que donc, effectivement, peut-être que, idéalement, les femmes préfèrent, et les couples aussi, ont envie d'avoir un seul enfant. Ou deux enfants maximum. Et qu'en fait, avant, quand on en faisait quatre dans sa vie, c'était pas vraiment choisi, quoi, tout simplement. Et l'autre problématique, je pense qu'elle est vraiment structurelle, c'est qu'en fait, il y a eu une révolution, plusieurs révolutions féministes ces dernières décennies, et que là, enfin, ça a quand même drastiquement changé depuis les années 70. Je pense en termes de droits, en termes de mœurs, on peut pas nier qu'il y a quand même une évolution vraiment chouette. Mais qu'en fait, nous, depuis qu'on peut accéder à des emplois salariés, qu'on a investi les emplois salariés de force, enfin, par le cas de force majeure avec les guerres mondiales, bah en fait, on nous a dit « Ah super, les femmes travaillent, c'est trop bien !» Mais en fait, on n'a jamais pu lâcher cette autre responsabilité qui est le foyer et qui est de tenir une maison parfaite, d'élever les enfants, etc. D'où le concept de double journée de travail qui n'incombe toujours pas aux hommes, en fait. Et que je pense qu'à un moment donné, il y a plein de meufs qui se sont dit, qui ont pris un petit peu de recul, qui ont été là « Je suis en train de me faire avoir, en fait !» Donc je ne vois pas pourquoi je continuerai à bosser comme une acharnée et à me confronter à un plafond de verre qui fait que j'ai moins de promotion, je suis moins payée, et tout ça dans un climat qui est parfois violent en entreprise, pour en plus faire des enfants qui vont être la source d'appauvrissement potentiel, la porte ouverte à des violences conjugales, le fait que bah je vais peut-être faire une dépression postpartum, ou je vais pas me sentir soutenue, et donc du coup je vais culpabiliser en permanence, enfin, et qu'en plus je vais me taper toutes les charges, enfin toutes les tâches domestiques parce que mon mari considère que c'est pas son rôle. Je pense juste que ouais, il y a plein de femmes qui sont là, bah non, en fait, je ne vois pas pourquoi je me taperais cette charge. Et elles ont bien raison. Donc ouais, ça, Emmanuel Macron, j'aurais bien aimé qu'il l'ait en tête et qu'il en parle, mais évidemment, il n'est pas féministe pour un sou, donc ça risque pas. Mais ça aurait été bien.
On a parlé de là où on pourrait habiter, des communautés. Donc ça pourrait faire écho au terme famille choisie. Qu'est-ce que tu penses de ce terme? Et toi, comment tu définis ta famille choisie, si tu aimes ce mot aujourd'hui, et comment tu la vois plus tard?
Ouais, moi je trouve que ce terme il est super bien, c'est on le doit surtout aux féministes et aux personnes queer qui du coup ont pris ont créé cette expression parce que ben effectivement en tant que personne queer, je pense que je suis pas concernée, mais effectivement il y a quand même ce truc de violence majeure et beaucoup plus présente que pour une personne comme moi qui suis cisgenre, hétéro, etc. Et du coup il y a cette idée que bah malheureusement la famille subit, en tout cas la famille originelle étant un lieu potentiellement de violence et de non-soutien, il faut s'en choisir une autre, et je trouve ça trop chouette. Et du coup, il y a cette idée que, ben, au final, le mot famille, si on le sort de sa définition sociologique dont on a parlé là depuis le début, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que moi, ma famille biologique, bah, c'est ma famille, ok, mais je suis proche seulement de ma mère. Mon père, vite fait, parce qu'on s'entend très mal et tellement problématique sur plein d'aspects que voilà. J'ai une demi-sœur, mais on n'a pas grandi ensemble parce que mon père n'a pas fait son travail en fait de père et que du coup bah il a pas mis le lien nécessaire à ce qu'on ait une relation proche quoi. Ma grand-mère, je la vois un peu, mais bon, on n'est pas très proches. Enfin, il y a pas vraiment de communication, il y a pas vraiment de fêtes de famille régulière à part Noël et voilà. Et du coup, bah, s'il y a cette famille numéro une, qui est la famille originelle, un peu, bah, qui est là par défaut, mais que moi, qui est pas importante pour moi, quoi. Vraiment, je n'ai pas de lien particulier avec cette famille, mis à part ma mère, quoi. Et après, il y a tout le reste. Ça peut être, là, en ce moment, je dirais que ma famille choisie, c'est mes colocataires. Parce qu'il y en a une, donc, une des deux que je connais depuis 2 ans seulement. Et l'autre, ça fait 15 ans qu'on est amis. Donc vraiment, il y a ce truc de... C'est hyper fort, en fait. Enfin, c'est quand même pas tous les jours qu'on a une relation aussi longue avec des gens qui sont pas de notre famille originelle. Et du coup, je dirais que c'est ça. Mais en fait, je pense que surtout, ça peut évoluer. C'est-à-dire que a priori, peut-être que dans 2 ans, j'aurai une autre famille choisie qui va s'additionner, en plus, à celle-ci. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'avoir ce petit cocon qui est un endroit hyper sécurisant pour nous trois et qu'on adore. Mais peut-être qu'en fait, c'est sûr, nos chemins de vie vont évoluer. Et puis, bah, il y a des gens qui vont s'additionner, il y a des gens qui vont partir, etc. Et qu'en fait, c'est la famille, c'est quelque chose de mouvant. Et ça, on peine encore vachement à le voir parce que du coup, ça va totalement à l'encontre de cette fameuse famille nucléaire qui doit être un socle qui ne bouge pas, qui reste coûte que coûte, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Et que surtout, on n'est pas obligé de s'en tenir à cette définition si on n'en a pas envie, quoi.
Trop bien, ben merci. J'ai posé toutes mes questions. Est-ce que t'as quelque chose que t'as oublié de dire ou t'as une recommandation à faire ou est-ce que t'as un conseil à donner? Je pense qu'on a...
Peut-être des conseils de choses à écouter ou de lecture, etc. Au-delà de mon livre, bien sûr.
Le temps du choix voilà. Aux éditions Payot.
Non, mais il y a un livre l'année dernière donc que je cite beaucoup moi dans mon livre aussi qui s'appelle Faire famille autrement, qui est trop bien. Et en podcast, il y a aussi un épisode que j'ai vachement aimé. Là, il me revient tout de suite, donc c'est que vraiment il a dû me marquer. Qui s'appelle, c'est dans le podcast Vivre heureux avant la fin du monde, et qui s'appelle Réapprendre à faire l'amour. Je sais pas si ça te parle ou quoi, mais quand j'ai lu le titre, j'étais là, quoi? Et en fait, ça m'a un peu poussé dans des réflexions que j'avais jamais eues. C'est que tout est culturel, tout est construit. Qu'aucun de nos comportements n'est inné, que ce soit un truc aussi, que pour plein de gens peut être aussi naturel que faire l'amour, par exemple. Non, c'est pas du tout naturel, la manière qu'on a de faire du sexe. Et du coup, je trouve que c'est trop cool d'avoir toujours ça en tête pour tous nos actions, tous nos modes de vie. C'est que, à partir du moment où c'est construit, eh ben, on peut le déconstruire. C'est un mot très à la mode et tout, qui peut avoir plein de significations. Mais en tout cas, il y a aucun modèle qui est immuable et tout peut changer et tout va changer, c'est évident. Voilà.
Ouais, c'est trop bien. Du coup, le livre « Faire famille autrement », c'est de Gabriel Richard aux éditions Binge Audio. Et le podcast dont tu parles, je n'ai pas écouté cet épisode, mais la journaliste qui fait cette série « Vivre heureux avant la fin du monde », c'est Delphine Saltel. C'est sur Arte Radio. Et donc, l'épisode s'appelle « Réapprendre à faire l'amour », c'est ça ?
Ouais, ou « Apprendre à faire l'amour ». En tout cas, c'est quelque chose comme ça.
Trop cool, merci. Merci, Bettina. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Partagez-vous notre point de vue sur la famille occidentale ? Avez-vous déjà aboli votre propre famille ? Ou bien avez-vous fondé une famille choisie ? Écrivez-nous pour nous répondre. Mon pseudo à moi, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Si vous écoutez Sologamy sur Spotify, vous pouvez aussi donner votre avis directement sur la page de l'épisode. Aujourd'hui, je tiens à remercier Marielle qui a commenté le 23 avril 2023 l'épisode dans lequel je reçois Ovidie pour discuter de sa grève du sexe. Marielle écrit... Merci à vous deux pour ce témoignage. Je suis en grève depuis 8 ans au moins. Ce n'était pas une décision consciente, mais une façon de se protéger de mes relations foireuses et de la violence des hommes. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous écouter et ça me permet de penser à ce que ça a produit chez moi ou à ce que j'ai enfoui parce que c'était plus simple de ne pas y réfléchir, notamment l'abandon de mon corps et de la notion de plaisir sur lequel il va falloir que je travaille. Bonne continuation. Bah, merci Marielle et bonne continuation à toi. Très intéressant, l'abandon de son corps et de la notion de plaisir. Moi, j'ai abandonné, je pense. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, m'écrire sur les réseaux sociaux ou soutenir financièrement le podcast et mon travail sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis merci infiniment à toi, Bettina. C'était un super épisode. Au revoir.
Merci, au revoir.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.